baroque et classique, dans la France du XVIIe siècle, Olivier Lestis et Philippe Frétinier.
Bonjour, vous êtes à l'écoute de l'émission Baroque ou classique, l'art français au XVIIe siècle, en compagnie, comme toujours, de Philippe Frétinier. Nous sommes en pleine session autour de la peinture. Lors de la dernière émission, vous avez beaucoup évoqué Poussin, et notamment ce qu'il inaugurait, en quelque sorte, en tout cas dans la peinture française, c'est-à-dire quelque chose qui dépasse largement la question simplement de la représentation, mais qui devient aussi une peinture narrative, une peinture avec un projet beaucoup plus vaste que la simple représentation donc d'une réalité.
Et cela d'ailleurs dans deux directions, ou avec deux origines chez Poussin. On a beaucoup de renseignements sur Poussin par les contemporains qui l'ont visité à Rome, à commencer par Félibien, que les Chartrains devraient mieux connaître. Puisqu'il
Il y a une rue Félibien.
Il y a une rue Félibien à Chartres parce qu'il était le premier des Félibiens. Le Félibien qui nous intéresse, il est natif de Chartres.
Oui. Une toute petite rue, hein. C'est pas une très grande rue.
Donc, c'est l'un des grands historiens, grand critique de la peinture au XVIIe, puisque c'est aussi le siècle de la naissance de la critique d'art, avec deux grands auteurs, dont Félibien, et puis l'autre, évidemment, Roger de Pils, connu pour son traité sur le coloris. D'ailleurs, c'est intéressant, puisque j'ai un peu commencé à aborder la question du coloris en parlant de l'usage que les Français font des personnages pour introduire dans le tableau des couches de couleurs très vives. J'ai souvent entendu dire beaucoup de bêtises sur l'histoire de la peinture, entre autres que Delacroix réintroduisait la couleur dans la peinture. Et ça, c'est un langage tenu par des ignorants, parce que quand on regarde la peinture du XVIIe, justement, il y a ces couleurs très fortes qu'on trouve chez tous les peintres français du XVIIe. C'est le personnage qui sert de support à la peinture, des bleus très intenses, des rouges éclatants, des jaunes d'or merveilleux. Et Poussin va faire la même chose. Ça, c'est vraiment un point commun à la plupart des peintres français, à l'exception notable de Philippe de Champaigne. Et ça va d'ailleurs déboucher sur un débat qui a déjà eu lieu dans l'histoire de la peinture, mais plutôt en Italie, c'est-à-dire la question de savoir ce qu'est la peinture, c'est-à-dire la question du dessin ou de la couleur. Ce qui est le plus important, est-ce que c'est le dessin dans la peinture ou est-ce que c'est la couleur? Alors, c'est illustré à merveille dès le XVIe avec la couleur vénitienne incarnée par Titien, Tintoret, Véronèse. J'insiste vraiment, j'en profite de l'occasion pour en chevaucher un de mes dadas. Si vous allez au Louvre, profitez que les foules sont agglutinées devant la Joconde pour regarder le tableau qui lui fait face, qui est un des plus grands tableaux de l'histoire de la peinture, qui sont les Noces de Cana de Véronèse, que personne ne regarde.
Quelques-uns quand même.
Il y a moi, entre autres, mais je me suis souvent senti bien seul, malgré la foule qu'il y avait dans mon dos. Ce débat va ressurgir en France, plutôt dans la seconde moitié du XVIIe, justement. On va parler de rubinisme, puisque Rubens va être très impressionné par les Vénitiens et va être porteur de cette notion de la couleur vénitienne. Et puis qu'on opposait au dessin florentin, puis romain, avec Michel-Ange. Et il y a cette anecdote savoureuse que je ne résiste pas à raconter, c'est que Michel-Ange serait allé voir Titien à Venise, et quand il est revenu, il aurait eu ce commentaire: c'est dommage que le Titien ne sache pas dessiner. Donc ça, c'est vraiment...
Comment on peut placer Poussin là-dedans, par exemple? Parce que vous disiez, lors de la précédente émission, que Poussin était quelqu'un de studieux, de travailleur, parce qu'il n'avait pas, a priori, un talent d'emblée éclatant.
Au départ, il n'a pas les facilités de certains autres peintres, comme par exemple Vouet.
En termes de dessin?
Pas spécialement dessin, non. C'est que vraiment, au départ, il s'est assez rapidement bien dessiné. Il y a de très beaux dessins de Poussin, dont On a la chance que le deuxième musée de France, par l'importance et par la qualité, c'est probablement à Chantilly, hein, l'ancienne collection du duc d'Aumale. Et on a la chance qu'à Chantilly, il y ait beaucoup de dessins conservés des Poussins qui sont exposés occasionnellement, parce que bien sûr, ce sont des dessins qui sont sensibles à la lumière.
Et puis là-bas, il y a déjà beaucoup de choses, c'est très, très
ah bah oui,
condensé. Ça, hein.
Oui, bah c'est,
la scénographie est difficile même parfois.
C'est le musée du 19e siècle, ouais. Hein, tel que l'a voulu le duc d'Aumale. Et il faut être reconnaissant à l'Institut, j'en profite pour faire une incise, parce que le duc d'Aumale avait légué, en léguant sa collection à l'Institut, avait bien précisé qu'on ne devait pas changer la présentation.
Oui, vous nous en aviez parlé déjà dans une précédente émission, en précisant que justement, l'institution aurait très bien pu, 10 ans après, changer ça, mais ils avaient tenu à rester fidèles au projet d'origine.
Et il faut leur être gré de ça, parce que c'est aussi quand même...
C'est aussi une trace de l'histoire,
de
la muséographie. Quoi.
Voilà, donc, alors évidemment, par contre, pour la contemplation, c'est peut-être un peu moins bien.
C'est moins facile, disons.
Oui, parce qu'il y a les œuvres, il faut vraiment faire un effort d'abstraction de ce qui entoure l'œuvre qu'on est en train de regarder, parce qu'autrement, les œuvres s'écrasent les unes les autres.
Oui, c'est ça. On voit ça dans quelques châteaux de la Loire aussi, parfois. Il y a vraiment des concentrations de présentations de très belles choses, mais juxtaposées vraiment de manière très, très serrée.
Et donc, Poussin, oui, s'inscrit tout à fait dans cette synthèse, je dirais, à la fois du dessin et du coloris. C'est peut-être même dans cette partie du 17e, celui qui va le mieux faire cette synthèse.
Tel que vous le présentez, c'est vraiment l'homme des synthèses, parce que dessin, coloris,
oui.
Mais aussi les différents courants dont vous nous aviez parlé la dernière fois. Entre
alors en plus, c'est quelqu'un qui va particulièrement travailler la question des images. Je cherche cette citation de Gide. « La pensée se fait aussitôt image ». Ça, c'est le commentaire de Gide sur Poussin. Parce que ça se voit d'ailleurs dans les fameuses lettres que j'ai déjà mentionnées. Aujourd'hui, on dirait que Poussin était un intellectuel, ce qu'il ne faut pas surestimer, exagérer, mais c'est vrai que Poussin est un érudit. D'ailleurs, cette dimension intellectuelle, là aussi, fait une sorte de synthèse entre des courants contradictoires du XVIIe, puisque j'ai parlé de la libre pensée, et puis en même temps de l'école française de spiritualité. Les rapports de Poussin et Dieu sont très compliqués. On n'est pas capable de démêler exactement sa position au milieu de tout ça. Par exemple, il va raconter très peu de vie de saint, mais c'est une peinture à dimension religieuse, probablement à cause des commanditaires, mais pas seulement. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui a connu Gassendi, notamment de son séjour à Paris en 1640-42. Bon, il rencontre Gassendi un certain nombre de fois. Donc il est proche à la fois des libres penseurs, sans qu'on puisse dire qu'il fut lui-même libre penseur. Dans la narration même de ses œuvres peintes, on ne peut pas dire qu'il y a une pensée strictement religieuse qui court dans ses tableaux religieux. Même si, évidemment, il n'y a aucune contradiction avec la ligne directrice instillée par la contre-réforme et portée par les jésuites, hein, parce que la question des images est extrêmement importante au XVIIe. Elle est importante du point de vue religieux, puisque les images vont avoir vocation à l'édification. C'est pour ça que Rome réaffirme d'une certaine façon le contrôle des images. Il y a très peu de prescriptions sur la peinture dans le Concile de Trente, mais l'une des choses importantes, c'est que ça doit être contrôlé par les évêques. Et donc évidemment, si c'est contrôlé par les évêques, c'est pour une question de doctrine.
Donc, non, mais chez Poussin, il y a beaucoup plus qu'un projet iconographique seulement.
Alors je vais revenir pour les sources d'inspiration, parce qu'il faut voir ça à la lumière des sources d'inspiration de Poussin. Justement, ce que j'essaie d'expliquer là, c'est que c'est multiple, parce que sans doute que la personnalité même de Poussin est multiple. Donc d'une part, il est au contact des libres penseurs, mais en même temps, sur le sentiment religieux qui est sans doute... pas aussi développé que chez d'autres peintres, comme par exemple Champagne. Néanmoins, on a une de ses lettres où il écrit qu'il a peint une crucifixion et que ça l'a tellement éprouvé qu'il ne peut pas repeindre aussitôt sur la continuité du même sujet. Donc,
ça en dit long sur l'engagement dans son art. Quand
voilà,
même.
Donc ça dit long sur l'engagement dans son art, et en même temps, quand même, qu'il y a quelque part du religieux chez Poussin, en tout cas de la transcendance. Alors, il n'est pas religieux non plus, dans la mesure où, plus que d'autres au XVIIe, je crois avoir dit que c'était, on aurait dit aujourd'hui, un intellectuel. Disons que c'est un lettré par rapport aux autres peintres. Il lit beaucoup et de sources, l'Antiquité, donc j'ai cité les Métamorphoses d'Ovide, mais aussi la littérature moderne, par exemple la Jérusalem délivrée du Tasse, dont, si vous vous souvenez bien, j'ai parlé dans les émissions
sur
la littérature. Évidemment, l'Antiquité, ça va être les grands récits, la mythologie. C'est vraiment le peintre le plus au spectre le plus large, le plus multiforme. Il y a une présence de la mythologie très forte chez Poussin, plus que chez tout autre peintre du XVIIe.
Oui, d'ailleurs, il introduit l'idée du récit dans sa peinture, du reste.
Ah oui, absolument. Alors, c'est là où ça rejoint vraiment la culture des images. Alors, le sentiment des images est avant tout orienté vers un discours religieux, mais pas que. Pour ceux que ça intéresse, une lecture un peu difficile, mais l'effort en vaut vraiment la peine. Il faut lire le livre de Marc Fumaroli sur le sentiment des images au XVIIe, qui fait vraiment un tour extrêmement érudit et passionnant de la question que renvoyait aux travaux de Marc Fumaroli, et pas seulement à celui-là d'ailleurs.
Alors, on va faire une petite pause musicale. Dans la continuité de l'émission précédente, toujours en illustration des offices qui avaient lieu durant les semaines pascales.
Donc aujourd'hui, on écoute la troisième leçon de ténèbres, celle du Vendredi Saint.
Alors juste avant la pause musicale, vous évoquiez un très grand critique, historien de l'art, Marc Fumaroli, ce qui m'amène à vous poser la question de ce qui se disait, de ce qui se construisait, de ce qui se pensait au XVIIe siècle en matière justement de théorie de l'art, parce que c'est un peu le moment de la naissance de la critique de l'art en quelque sorte.
En France en tout cas, oui, puisque d'une certaine façon on peut dire que le premier des critiques d'art, dans une acception large de l'idée, c'est Vasari, peintre illustre, auteur de la fresque au Palazzo Comunale de Florence qui recouvre la bataille d'Anghiari de Vinci, dont on sait maintenant qu'elle est derrière. Et Vasari, c'est essentiellement, il parle de la vie des peintres, les plus illustres, mais avec des commentaires. Donc c'est quand même le début de la critique d'art. Alors ça met du temps à arriver en France, mais ça arrive au moment où finalement, au moment adéquat, c'est-à-dire au moment où la peinture prend vraiment son essor au XVIIe.
Sûrement pas un hasard.
Non, non, bien sûr que non. D'autant plus qu'on est dans le prolongement de ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire la question de l'antique, des classiques dans le sens les modèles de l'Antiquité, et qui est vraiment au cœur de la culture et donc aussi de l'art. La grande question est dans la peinture, réintroduite, je l'ai dit aussi, notamment par les Carrache après les excès du maniérisme, c'est vraiment de revenir à la question de l'antique, parce que c'est l'idée du beau idéal, que d'ailleurs, l'Académie de peinture créée en 1648, relancée par Colbert en 1661, avec des conférences qui logiquement sont données par les peintres, avec aussi le projet d'enseigner. Hein, donc, c'est vraiment un discours idéal sur le beau. Alors, ça va être tempéré par la question des formes, ça va être tempéré par la question du sentiment, hein, mais il y a vraiment cette idée que l'Antiquité incarne à la perfection l'idéal du beau et qu'il faut revenir s'abreuver à ces sources-là. Et y compris même quand on retourne vers la Renaissance, c'est-à-dire on retourne vers Raphaël qui est le représentant de la réinterprétation antique du beau. Là, ça va se prolonger après par une question qui a existé en Italie dès la Renaissance, je crois déjà en avoir parlé aussi, c'est-à-dire qu'est-ce qui est important en peinture ? Est-ce que c'est la couleur ou est-ce que c'est le dessin ? D'ailleurs, en musique, on trouve ce débat qui est magnifique chez Richard Strauss, dans un opéra de Richard Strauss qui s'appelle Intermezzo. Dans la musique, qu'est-ce qui est important ? C'est le texte, sont les paroles ou la musique. Hein. Dans la peinture, cette question-là va se poser. Ça va donner de très vifs débats dans la seconde moitié du XVIIe, à l'époque de la fin de la vie de Poussin. Et il y a entre autres Victor de Pils qui a une formation de peintre, mais qui va beaucoup écrire et qui va faire un traité du coloris. Et d'ailleurs, dans la toute fin du XVIIe, si on pense à un peintre comme La Fosse, dont le nom n'est pas forcément connu du grand public, mais il y a au moins une œuvre qui est très très connue de lui, c'est une partie de la voûte de la chapelle du château de Versailles, qui est décorée par La Fosse, qui va donner vraiment une grande importance au coloris. On pourrait dire qu'il y a un déferlement baroque de la couleur, même si, encore une fois, j'aime pas trop le mot de baroque.
On pourrait presque même parler de la peinture abstraite, qui après tiendra d'abord... Qui prendra d'autres principes qui trouvent certainement leur origine dans l'éloignement possible du dessin dès le XVIIe siècle.
Enfin. Et donc Poussin va être celui qui va concilier toutes ces choses. Parce que si on prend d'autres peintres du XVIIe, on peut voir qu'il y a un tropisme particulier dans une direction ou dans l'autre. L'école parisienne, même si je rejoins le discours très critique de Philippe d'Agen sur les notions d'école, mais disons ce qui se passe à Paris au XVIIe, on choisit vraiment le coloris, la clarté, ça c'est évidemment incarné par Vouet. On a des dessous, des fonds qui sont très clairs, alors que Poussin va utiliser un rouge comme couleur de fond, qui est plus en rapport avec justement ce qui s'est passé dans la peinture italienne. Mais en même temps, il y a une importance très très grande accordée au dessin par Poussin. On le voit d'ailleurs dans toutes les études qu'il fait. J'en profite pour d'ailleurs parler de la boîte à perspective de Poussin, puisque bon, on connaît la caméra obscura, mais Poussin, lui, va faire dans des boîtes, il va faire des petites scénographies des sujets qu'il va peindre pour voir comment disposer les figures, voir comment la lumière tombe sur les figures. Il est vraiment sensible à tous les aspects de la peinture. Il manifeste une grande liberté même vis-à-vis de ses commanditaires, puisqu'il va connaître donc un grand succès. Il a assez tôt, parce que quand il arrive à Rome, il est introduit dans l'entourage du pape Urbain VIII et donc de la famille Barberini, dont j'ai aussi parlé à propos de la musique, l'importance que les cours princières romaines vont avoir dans le développement des arts. Et il va avoir de grands commanditaires prestigieux qui petit à petit vont attirer à lui des commanditaires français. Et c'est sûrement le peintre qui aura la plus grande indépendance. On le voit bien dans ses lettres quand il écrit aux uns et aux autres, notamment à Frère de Chanteloup, qui est l'homme avec son grand frère. Ce sont les deux hommes qui vont conseiller Sublet Desnoyelles, surintendant des bâtiments. C'est eux que Sublet Desnoyelles va charger d'aller à Rome pour chercher des œuvres, justement les classiques. Il manifeste une indépendance farouche par rapport au sujet qu'il traite, mais il accepte de traiter certains sujets à la demande de ses commanditaires, mais vraiment à sa façon. On ne peut pas dire qu'il y a un primat du dessin ou un primat du coloris chez Poussin, puisqu'il y a vraiment le primat des deux. C'est celui qui réunit, vous voyez, aussi bien d'un point de vue intellectuel. J'ai fait une embardée du côté de la libre pensée, mais j'ai aussi parlé quand même d'un sentiment religieux chez lui. Donc, il y a une sorte de syncrétisme de tout ce qui se passe au XVIIe dans la personnalité de Poussin.
Sans doute peut-on trouver là l'explication de sa très forte notoriété qui n'a jamais été démentie.
Oui, sûrement, sûrement.
Alors que beaucoup de peintres sont passés par des périodes de l'histoire où ils étaient totalement ignorés, oubliés.
C'est-à-dire, oui, et puis c'était... En plus, il y a comme ça dans l'histoire de l'art des moments où, à partir de la Renaissance, il y a des peintres qui ont clairement conscience que la peinture est un art et qu'eux-mêmes sont des artistes et qui veulent développer leur art. Pas seulement leur technique, mais surtout leur expression, mettent au service de leur virtuosité leur technique. Et bon, là, on a ça chez Vinci, très, très clairement. On a ça chez Rembrandt. Je veux dire, il ne faut pas attendre le 19e siècle avec Gauguin qui dit que ça sera tous les jours dimanche pour faire de la peinture. Et on voit bien les démêlés qu'a eu Rembrandt avec ses clients, notamment le syndic des drapiers. Il veut faire de la peinture, il veut pas faire de la photo. Et on a aussi ça chez Poussin. Et son idée même d'une narration avec des éléments symboliques très développés, il y a vraiment un discours, il y a une histoire racontée à l'intérieur de l'histoire. Et ces autoportraits sont très célèbres pour ça, parce qu'il y a il y a l'emblème du dessin dans la main. Enfin, bon, je ne vais pas faire une analyse parce qu'on n'a pas le temps, mais c'est sans doute pour ça aussi qu'il nous parle toujours, finalement. Hein. Et, parce que c'est d'une certaine façon aussi un peintre de la liberté. Hein. C'est-à-dire qu'il fait ce qu'il veut, lui.
C'est plutôt une très très belle... conclusion sur la peinture, de le dire comme ça. Et on va se quitter. Bon. On parlera à partir de la prochaine émission, je pense, de sculpture. Il y aura d'autres sujets encore après. Mais nous allons conclure cette émission sur la peinture avec à nouveau une pièce musicale que je vous laisse
On va rester présenter. Chez Charpentier pour être dans une sorte d'harmonie avec le sujet. On a commencé avec Charpentier, donc on va continuer avec Charpentier dans l'émission. Donc c'est la messe pour l'offertoire de la messe rouge. Thank you.
Et vincas, 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 et v